Vous écoutez
RMC.
Il est 8h, très belle journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un cargo français touché dans le détroit d'Ormuz, selon les médias américains. Quelques heures seulement avant l'annonce de Donald Trump de suspendre son opération d'escorte de navires dans le détroit d'Ormuz et dans l'espoir d'un accord de paix avec l'Iran. Des fruits et des légumes emballés, le plastique résiste et continue d'envahir nos rayons en dépit de lois successives sur le sujet. Et qui du PSG ou du Bayern rejoindra Arsenal en finale de Ligue des Champions? Réponse ce soir sur RMC, demi-finale retour de la compétition.
La fin de la guerre est-elle possible au Moyen-Orient?
Il y a un espoir mince avec ce revirement de Donald Trump qui, pour tenter d'aboutir à un accord avec l'Iran, annonce la suspension de son opération d'escorte de navires en place depuis 48 heures dans le détroit d'Ormuz, où la tension est restée très forte jusqu'à hier soir. En croire les médias américains, Romain Houg, un navire français a été touché.
Oui, c'est la chaîne de télévision CBS News qui donne cette information, citant deux responsables américains. Il s'agirait du San Antonio, navire battant pavillon maltais, précisément un porte-conteneur appartenant à la compagnie française CMA-CGM, propriétaire de RMC, ce dont n'a pas encore confirmation, dit-il ce matin le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Le navire aurait été touché par un missile de croisière iranien dans le golfe Persique hier, sans que l'on ne sache vraiment à quelle heure. Toujours selon ces deux responsables américains, plusieurs membres d'équipage philippin auraient été blessés dans cette attaque. Alors, où se trouve désormais ce navire? C'est difficile à dire. La dernière localisation connue, c'est au large de Dubaï, port de départ de ce navire, il y a un peu moins de 24 heures. C'est en tout cas ce que l'on peut voir sur un site de trafic maritime en direct, mais c'est compliqué d'en savoir plus, tout simplement en raison des brouillages GPS liés à la guerre en cours dans la zone.
Une ligne rouge, celle du patron de Total Energy, Patrick Pouyanné, qui menace de mettre fin au plafonnement des prix à la pompe si le gouvernement décidait de taxer les super profits comme le réclament les socialistes. Ce n'est pas le cas. À cette heure, l'exécutif semble privilégier de nouvelles aides, adapter les dispositifs en cours. C'est le Premier ministre qui le dit à l'Assemblée nationale, Thomas Becker.
Oui, devant les députés, Sébastien Lecornu, comme Emmanuel Macron il y a quelques jours, prépare les esprits. La guerre va durer et la crise des carburants aussi.
Nous allons vivre avec cela. Cela va durer, c'est systémique. Et la question énergétique fait partie des guerres hybrides qui seront menées à un continent comme l'Europe et singulièrement à la France.
Il promet de nouvelles aides en début de semaine prochaine. On veut aller au-delà des secteurs déjà concernés, précise son entourage. Après avoir aidé les professionnels les plus dépendants vis-à-vis des carburants, comme les pêcheurs ou les transporteurs, on veut aider d'autres de l'économie, les secteurs en deuxième ligne, explique un conseiller de Sébastien Lecornu. Jeudi soir, le chef du gouvernement réunira la plupart de ses ministres pour déterminer les professions concernées. Selon les informations de RMC, des aides pour les taxis, les aides à domicile et les aides soignantes sont en ce moment à l'étude. L'objectif est de donner de la visibilité, explique Matignon, qui prépare déjà les aides du mois de juin.
À retenir également 15 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans dès cette année en France, promesse d'Amazon. À la clé, 7000 créations d'emplois en CDI réparties sur 4 nouveaux sites. Il est partout dans nos supermarchés, le plastique dans le viseur de 2 associations. Elles pointent dans un rapport son omniprésence en rayon. 6 ans pourtant après la loi anti-gaspillage qui imposait pour 2025 une réduction de 20% des plastiques à usage unique. On en est encore très loin, nous dit ce matin sur RMC Camille Wolf de l'association No Plastic in My Sea.
Maintenant, on vous vend des fruits et légumes découpés en tranches, préparés dans des barquettes en plastique. Moi, j'ai l'impression que les Français, ils ont pas besoin qu'on leur coupe leurs tomates pour réussir à les mettre dans leur salade. Moi, je serais intéressé de savoir si les ventes des autres fruits et légumes ont baissé depuis qu'on propose cette offre-là. J'en suis pas convaincu. À mon avis, on se donne des bonnes excuses pour des pratiques qui sont indéfendables. Et c'est pour ça que nous, on appelle à la grande distribution à revenir sur ces pratiques-là, parce qu'elles envoient des signaux complètement contradictoires avec les objectifs qu'on a de diminution de ce plastique à outrance.
On va vous parler dans quelques instants de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG. Une rencontre que certains supporters auront la chance de vivre au stade avec parfois une place achetée à prix d'or. Que ce soit pour les événements sportifs ou les concerts. On parle ici de billets vendus en dehors des sites officiels par des revendeurs. Ils prennent d'assaut les billetteries, achètent plusieurs places dans le seul et unique but de les revendre beaucoup plus cher que le prix initial. On appelle ça des scalpers. C'est le choix de la rédaction ce matin, Marion Gauthier.
Oui, et c'est le cas de Nicolas, un entrepreneur. Entrepreneur et scalper artisanal, dit-il. Il a commencé par le sport il y a 8 ans, acheter, revendre des places pour des matchs et avec le bénéfice, acheter une meilleure place pour lui. Aujourd'hui, il a une quarantaine de billets à revendre pour les concerts de Céline Dion. Il en avait 10 pour Bayern PSG.
La place valait 50 euros et se revendait prix marché aux alentours de 200, 250. Ça peut payer des belles vacances, mais on n'en vit pas.
Il avoue tout de même gagner 10 000 euros par an en revendant ses tickets d'entrée plus chers. Ses clients payent le service en quelque sorte.
En fait, au fur et à mesure des années, les gens demandent parce qu'ils sont au courant qu'on peut potentiellement avoir des billets. Voilà. On est presque un peu comme de la bourse où on aurait deux téléphones, les billets sortent. Et en fait, effectivement, on dit au client, tu prends pas. S'il prend pas, tac, client suivant. Mais moi aussi, même pour moi, maintenant, c'est devenu compliqué.
Car la pratique se professionnalise, certains scalpeurs programment des logiciels, des bots pour multiplier les connexions, entrer dans les files d'attente et aller plus vite sur les ventes en ligne. Les billetteries tentent de suivre et d'améliorer la détection de ces robots. Sollicité par RMC, la plateforme Ticketmaster estime subir jusqu'à 200 millions d'attaques par semaine en France.
Le choix de la rédaction, signé Marion Gauthier ce matin sur RMC. Vous l'aurez donc compris, si vous voulez suivre ce match Bayern-PSG sans vous ruiner, rendez-vous sur RMC, 21h. Ce soir, c'est gratuit, une rencontre au sommet et une chose que les supporters du PSG redoutent ce soir. Le galop infernal d'Offenbach, la musique qui suit chaque but du Bayern à l'Allianz Arena de Munich. C'est là que le PSG a soulevé sa première coupe aux grandes oreilles l'an dernier. C'est là que les hommes de Luis Enrique vont tenter cette année d'aller chercher leur place en finale de Ligue des Champions. Ce sera face à Arsenal, tombeur hier de l'Atlético Madrid, à Munich et en direct ce matin pour RMC. Arthur Perrault, une semaine après leur victoire 5-4 au Parc des Princes. Les Parisiens ne partent pas dans l'idée de conserver leur petit but d'avance, mais celle d'enfoncer le clou, Arthur.
Oui, Paris ne vient pas à Munich pour faire du tourisme. Thibaut, le club de la capitale, rêve de se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. En conférence de presse hier, l'entraîneur parisien Luis Enrique a été clair. Le PSG va chercher à gagner ce match, mais surtout le PSG va chercher à rester fidèle à ses valeurs avec un collectif puissant et un jeu porté vers l'attaque. Mais pour y parvenir, le champion de France va devoir composer sans le défenseur Achraf Hakimi. Pour le suppléer, l'international français Warren Zaïre-Emery devrait être titulaire. Lui qui a l'habitude d'être au milieu de terrain. Dans le cœur du jeu parisien, c'est un Fabian Ruiz diminué qui pourrait lui débuter. Après 3 mois d'absence avec une blessure au genou, l'Espagnol va devoir porter le PSG devant les 75 000 spectateurs de l'Allianz Arena. Des Parisiens qui restent optimistes avant d'aborder ce nouveau choc contre le Bayern Munich, avec deux mots d'ordre dans la direction du club: sérénité et détermination.
Arthur Perrault en direct de Munich. On vous retrouvera ce soir sur RMC pour ce choc dès 18h. Rotten sans flamme, le match 21h suivi de l'afterfoot et de la libre antenne. Avant ça, un autre rendez-vous sur RMC 15h, la toute première interview de Paul Sexas depuis l'annonce de sa participation au Tour de France. Il est l'invité du Super Moscato Show.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, on parle du taux d'usure. Le taux d'usure est aujourd'hui trop bas. Est-ce qu'il va, comme en 2022, bloquer le marché immobilier?
Alors, il faut rappeler que le taux d'usure, c'est le taux maximum légal qu'une banque peut appliquer à un crédit. Il est fixé chaque trimestre par la Banque de France. Alors là, aujourd'hui, c'est 4,48% pour les prêts sur 10 à 20 ans, 5,19% pour les prêts sur 20 ans et plus, et ce, depuis le 1er avril. Alors, il faut rappeler qu'au départ, ce taux d'usure, ça part d'une bonne intention. Ça part de la volonté de protéger les consommateurs contre des taux d'intérêt beaucoup trop élevés que pourraient pratiquer les banques. Le problème, c'est que, entre-temps, depuis le 1er avril, à cause des tensions géopolitique, les taux d'intérêt proposés par les banques aux acheteurs immobiliers ont remonté dans le sillage des taux d'intérêt sur les marchés financiers. Le résultat, c'est qu'on a un nombre croissant de dossiers d'emprunteurs qui affichent un taux effectif global. Vous savez, le taux effectif global, c'est quand vous avez mis l'assurance, etc. Et ben, qui est plus élevé que le taux d'usure, même pour des bons dossiers. Donc le résultat, eh bien, c'est que ces bons emprunteurs essuient un refus de crédit.
Qui sont les profils qui sont donc potentiellement concernés par cette question?
Contrairement à une idée reçue, les emprunteurs les plus fragiles ou les plus jeunes ne sont pas forcément les plus concernés. Donc on pourrait penser que tous ceux qui ont des budgets serrés sont les plus frappés. Bah non, c'est pas forcément le cas. Il y a des profils qu'on pourrait qualifier de haut de gamme qui sont un peu percutés. Par exemple, vous avez 45-50 ans, vous avez des bons revenus, mais vous voulez emprunter sur une durée assez courte, et bah c'est pas possible. Ou bien vous êtes un emprunteur âgé, vous avez plus de 60 ans. Là, on va vous demander par exemple un taux d'assurance plus élevé que si vous êtes jeune, et pareil, vous n'allez pas passer la rampe du taux du d'usure. Donc pour arriver à obtenir un prêt dans ce contexte, il y a plusieurs options possibles. Par exemple, allonger la durée du crédit quand c'est possible pour avoir un plafond du taux d'usure plus élevé. Faire jouer la concurrence sur l'assurance au lieu de prendre systématiquement celle que vous propose la banque. Ou encore négocier les frais annexes pour limiter leur impact sur ce fameux taux d'intérêt global.
Emmanuel, comme tous les jours sur RMC, les chiffres du jour.
Alors, le gazole, on est sur 2,22€ le litre. Mais alors, vous savez qu'avec la promo Total qui va recommencer, essayez de tenir jusqu'au week-end prochain parce que là, ça va baisser. Sur le samplon 95, on est dans une hausse inexorable, dans le sillage du brut, puisqu'on a pris 3 centimes en une semaine. Et puis, le pétrole, $108 le baril. On voit bien que depuis 10 jours, finalement, on s'installe dans une fourchette entre 100 et 110$ le baril. Les semaines précédentes, on était plutôt entre 90 et 100$ le baril. Donc, on s'installe sur une fourchette qui est 10€ plus élevée que les semaines précédentes. Ça n'augure rien de bon, évidemment, pour les prix des carburants. Et puis, pour le gaz, on est stable à 46,50€ le mégawattheure. C'est quand même 50% au-dessus des niveaux d'avant-guerre. Mais rappelez-vous qu'en 2023, on était 300% au-dessus des niveaux d'avant-guerre.
C'était l'économie avec Emmanuel Lechypre, il est 8 à 11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
On se retrouve dans un instant avec le meilleur d'Arnaud Demange. Notez qu'à 8h30, ce sera Olivier Faure, mon invité, le patron du Parti Socialiste. Entre les taxes sur Total ou le plafond des prix à la pompe, il choisit quoi? Parce que vous le savez, il défend l'idée d'une taxe sur les super profits de Total. Mais voilà, Total répond, dans ces cas-là, si vous nous taxez, on remontera les prix à la pompe. Je lui pose évidemment la question à Olivier Faure et ce sera sa première réaction depuis l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Juste après, il y aura Face à Canteloup, comme tous les jours, à 8h50. Et en attendant, il y a vous aussi au 32-16, appelez-nous pour témoigner. J'ai presque l'impression que depuis qu'on parle des fast-food, tout le monde se planque en disant non, mais moi j'y vais pas, non, moi je cuisine, moi je fais de la bonne bouffe pour mes enfants. Super, mais j'imagine qu'il y en a quand même certains d'entre vous qui y vont aussi dans ces fast-food. Dites-le nous, n'ayez pas honte. Franchement, il n'y a pas de morale là-dedans. Nous, on écoute tout le monde et vous êtes tous les bienvenus au 32-16. Il est 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 sur RMC et RMC Story. Arnaud Demange a pris quelques jours, mais on en a gardé le meilleur. Il sera de retour lundi. En attendant, je voudrais que vous écoutiez les quelques astuces d'Arnaud pour devenir riche.
T'as mis de l'argent. Bonjour.
Bonjour.
Vous tous.
Ah oui, parce que si on écoute RMC.
Surtout, sachez que si vous avez peut-être tous de la thune qui vous attend sur le site internet Cyclade de la Caisse des dépôts qui permet de savoir si vous avez des sous qui vous attendent sur des comptes bancaires que vous avez oubliés.
Ce serait génial.
On met son nom dans le site.
Non, mais c'est vrai. Alors
11 euros.
Moi, j'ai eu 30 balles. En 2025, 164 millions d'euros ont été restitués. Donc, on tape son nom sur le site. C'est comme le loto.
Et vous avez, monsieur Béliard, 11 euros sur le livret A qu'a ouvert votre grand-mère à votre naissance. Félicitations.
Hey, 5 euros sur un livret A il y a 20 ans. Peut-être que vous avez un trésor de 5,50 euros qui dort sur un compte. Emmanuel Lechypre, il va se régaler, Manu. Il en a tellement des comptes, il a dû en oublier.
Oh, je l'avais oublié, ce compte à la Banque Populaire. Oh, un autre chez HSBC. Oh, un autre au Crédit Agricole. Oh, une assurance vie à la Banque Postale.
En 2026, Manu, il va récupérer les 164 millions à lui tout seul.
Ouais.
Enfin, avec Edwige Chevrillon, copine de BFM Business, il va lui dire
« Momoun, je vais pouvoir agrandir la piscine et commander un millefeuille chez Cédric Grolet. »
Oh, choubidou, c'est formidable. Je suis nu dans le jacuzzi. Prends les frites de piscine et les canards en plastique.
J'arrive.
Beau requin de la finance, croque-moi toute crue, je suis un sushi.
Edwige, on t'embrasse.
On t'embrasse, Edwige.
Donald Trump se prépare à une attaque nucléaire sur le sol américain. On lui a posé la question, un avion prévu
Ouais, en fait, alors, je vais le faire. Je sens qu'on a mal dormi. Le débat de mercredi soir a laissé péter la question. Je vais le faire moi.
Je vais péter la question.
En fait.
Si on veut payer le voyage, je vais bien y aller.
Donald Trump se prépare-t-il à une attaque nucléaire sur le sol américain? Parce qu'il y a un avion qui est prévu dans ce cas.
Oui, mais c'était trop compliqué aussi comme relance. Compliqué. Pardon, Arnaud Demange.
C'est un avion qui est surnommé l'avion de l'apocalypse et il a été vu en train de faire des manœuvres. L'avion de l'apocalypse. Alors l'avion de l'apocalypse, c'est pas un vol Ryanair qui fait Beauvais-Gerba où vous êtes coincé entre Gilles Vernez et Tina Turner. Hein,
l'avion de l'apocalypse. C'est pas mal aussi, ça dit.
C'est pas loin. Non, c'est bien aussi, mais là c'est un avion blindé qui est surnommé aussi l'avion du jugement dernier. Ça fait envie. Il doit servir de poste de commandement pour le président américain en cas d'attaque nucléaire. Alors admettons qu'il y ait une attaque nucléaire et que la planète soit détruite. Où est-ce qu'il va atterrir de toute façon? Ça le maintient en l'air le temps d'un plein, quoi. En tout cas, c'est pas rassurant. Et vous savez qu'en France, nous, on a le Ouigo de la fin du monde. Qui sert aussi de base à Emmanuel Macron en temps de crise. Je vais demander à l'armée de l'air de... Oh non, je capte même pas le Wi-Fi. Alors que c'est la guerre mondiale. Bon, je vais aller au wagon-restaurant pour le briefing. Oh non, putain, c'est vrai, c'est un Ouigo. À seulement 350 euros le billet, il n'y a pas de wagon-bar. Ah oh, bah c'est bête alors.
C'est vraiment trop bête. Il est 8h18, il sera de retour lundi, Arnaud Demanche. Et pour rire, il y a aussi Nicolas Cantelou, ça ce sera 8h50. Pour l'heure, il est 8h18. Je voudrais accueillir Laetitia, qui nous appelle de Haute-Loire. Bonjour, bonjour. Laetitia.
Bonjour.
Laetitia, vous y allez par plaisir au fast-food? Je voudrais repréciser le débat. On a quand même l'impression que la guerre des fast-food est relancée avec McDo qui relance des menus à petit prix, avec l'apparition de ces nouvelles enseignes Krusty Poulet, Master Poulet, un peu partout. C'est vraiment aussi la question à la fois du pouvoir d'achat, des fast-food, éventuellement de la malbouffe. Vous en êtes où, vous, Laetitia?
Moi, en fait, ce qui me fait réagir, c'est ce que les personnes qui ont appelé ce matin, c'était pour dire qu'elles cuisinaient et qu'elles n'allaient pas en fast-food.
Ouais.
Moi, je pense que les deux sont pas opposés. Moi, je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup aller au restaurant, mais j'aime aussi de temps en temps manger un bon McDo.
Ce que nous disait, vous avez entendu tout à l'heure ce que nous disait le conseiller en dans tout ce qui est culinaire, restauration, il disait au fond, c'est aussi dans une logique de notre époque, on a besoin de temps en temps de craquer, quoi.
C'est ça, de craquer, de se faire plaisir, comme aller dans une crêperie ou dans une pizzeria. Enfin, c'est la fréquence qui serait pas bonne, mais c'est pas le fait d'y aller. Enfin, pour moi, c'est pas le fait d'y aller une fois de temps en temps pour plaisir qui fait qu'on a de la malbouffe. Ça n'empêche pas de manger, comme le monsieur de ce matin, des carottes râpées.
Le reste des carottes moches, enfin. Vous précisez, vous avez entendu, c'était David.
Les carottes moches avec un filet de pizza.
Les carottes moches, pas chères. Quand elles sont râpées, honnêtement, on ne sait plus si elles sont moches ou pas moches, d'ailleurs.
C'est ça. Non, mais c'était surtout ça. C'est de dire que moi, pour moi, les deux ne sont pas du tout incompatibles, en fait.
Et dans ces cas-là, vous allez où, Laetitia?
Moi, je suis plutôt McDo, Burger King, mais
voilà. Bon, bah écoutez, non, mais c'est bien, et c'est bien de le dire aussi, parce que je pense qu'effectivement, il faut pouvoir tout entendre, mais on le sent bien. Et d'ailleurs, c'est passionnant parce que c'est à la fois une question, j'allais dire culinaire, alimentaire, une question de consommation, de pouvoir d'achat. C'est même en train de devenir une question politique. Tiens, je poserai la question tout à l'heure à Olivier Faure, parce que la gauche d'avant, c'était plutôt la gauche, une gauche José Bové qui luttait contre les McDo. Aujourd'hui, ce serait plutôt la défense, pour une partie en tout cas, la défense de ces nouvelles enseignes. Il est 8h20. Le face-à-face, c'est dans un instant. Mais d'abord, c'est l'heure de féliciter Jacqueline. Bonjour Jacqueline.
Et bonjour.
Et bonjour Jacqueline. Bravo. C'est vous qui avez remporté le séjour Bel Embrun. Félicitations.
Oh là là, je suis ravie. Ouais, très heureuse.
Et nous, Jacqueline, vous vivez où? Vous faites quoi?
Je vis à Saint-Genélaire. C'est une petite ville à côté de Saint-Étienne.
D'accord.
Dans 42.
D'accord. Et vous savez déjà où est-ce que vous avez envie de partir?
Eh ben, ça serait plutôt au bord de la mer. Mes enfants aiment beaucoup le bord de la mer et comment on part avec eux.
Ah, c'est sympa. Donc, voilà. Vous savez déjà,
deux
en tout cas...
Deux grands-enfants, moi, qui sont célibataires et on part toujours avec mon mari et mes enfants.
Ça va être un bon moment, moment ensemble. Eh ben, Jacqueline, on vous souhaite de très belles vacances. On vous souhaite de très belles vacances parce que ça y est, on peut le dire. Vous les avez gagnées. Comme Jacqueline d'ailleurs, vous le savez, toute la semaine, on vous offre vos vacances, un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bel Embrun. Il y en aura un nouveau séjour à gagner demain, donc restez toujours bien à l'écoute. Il est 8h21.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bel Embrun. Bel Embrun Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Restez bien à l'écoute, dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Olivier Faure, il est 8h22. Merci d'écouter RMC, il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Un cargo de l'armateur français CMA-CGM, également propriétaire de RMC-BFM, touché par un projectile d'origine inconnue dans le détroit d'Ormuz. Ce sont les informations relayées par la chaîne américaine CBS ce matin, quelques heures après l'annonce de Donald Trump. La mission d'escorte américaine est suspendue. Le temps, dit-il, de voir si un accord de paix est signé avec l'Iran. Dans ce contexte, Sébastien Lecornu promet de nouvelles aides carburant. Elles pourraient être dévoilées la semaine prochaine et elles s'élargiraient à des secteurs qui ne sont pas pour l'heure alors considéré comme en première ligne, a précisé le Premier ministre. 15 milliards d'euros sur 3 ans, c'est le montant du plan d'investissement annoncé par Amazon en France hier soir. À la clé, 7000 emplois en CDI et 4 nouveaux centres de distribution d'ici fin 2027. Un an et demi de prison avec sursis requis hier contre un animateur du périscolaire parisien, accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle sur des petites filles de CM2 en 2024. Décision attendue le 16 juin prochain. Le choc de l'année, c'est du foot en Ligue des Champions. C'est sur RMC, soirée spéciale dès 18h. Coup d'envoi à 21h pour ce Bayern Munich Paris Saint-Germain. Demi-finale retour de Ligue des Champions. Avantage Paris, 5 buts à 4 à l'aller. Le gagnant de ce match affrontera Arsenal en finale de cette Coupe d'Europe. Et puis la météo, le temps est gris et pluvieux sur la plupart des régions aujourd'hui. Du soleil quand même près de la Méditerranée. Ce sera plus sec vers l'Atlantique en journée avec des températures qui baissent encore cet après-midi de 12 à Reims jusqu'à 21 à Montpellier, 15 à Paris, 17 à Bordeaux et 19 à Marseille.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, le face-à-face. Mon invité, c'est Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. Première interview depuis l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et puis tiens, je lui poserai évidemment la question à Olivier Faure. Taxe ou plafond? Il veut taxer Total et Total répond: eh bien dans ce cas, je ferai remonter les prix. Entre la taxe et le plafond, il choisit quoi, Olivier Faure? Réponse dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci d'être ici pour répondre à mes questions. Vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste. J'ai plein de questions à vous poser et notamment sur les candidatures.
C'est
la
répondre.
Première fois que vous répondez à une interview depuis l'annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Mais je voudrais commencer par cette histoire de Total. Vous voulez taxer Total et Total dit bah, si vous nous taxez, on va remonter les prix à la pompe. Fini le plafond. Entre la taxe et le plafond, vous choisissez quoi?
D'abord, la première chose, c'est que il ne s'agit pas d'une taxe totale. Il s'agit en fait d'une taxe qui vise toutes celles et ceux qui font des super profits liés à un conflit. Et donc, en réalité, quand Total et d'autres font des super profits, ils ne les font pas parce qu'ils ont augmenté leur production, ils ne le font pas parce qu'ils ont créé des produits nouveaux, ils ne font pas des profits parce qu'ils ont un génie particulier, ils le font simplement parce que la crise géopolitique est là et qu'ils en profitent. Et donc, dans un moment comme celui-là, où les Français sont amenés à voir leur pouvoir d'achat rogné progressivement par la hausse des prix du carburant et de l'énergie de manière générale, il est logique, il est normal que celles et ceux qui font des profits qui sont des profits indus, eh bien, soient amenés aussi à contribuer.
Mais vous
et
avez donc, vu ce que vous répond oui, Patrick Pouyanet. Hier, il dit d'abord sur ce que vous dites sur le fait qu'ils ont gagné de l'argent. Il dit Total Energy ne va pas non plus s'excuser de performer et de réussir dans son domaine. Il faut au contraire, dit-il, en être fier. Et par ailleurs, il dit si vous taxez, bah, il n'y a pas de problème. Mécaniquement, je stoppe mais mon plafonnement des prix à la pompe.
Je ne demande à personne des excuses. Je dis simplement que quand on a un pays qui est menacé par une perte de pouvoir d'achat pour le plus grand nombre, eh bien, celles et ceux qui ont fait le plus de profits doivent contribuer. Ça s'appelle la solidarité, ça s'appelle aussi défendre l'intérêt général.
Il y a déjà
général.
Une surtaxe sur une oui, contribution oui, qui était censée être exceptionnelle et qui a été renouvelée.
Pour ceux qui font il la paye. Ils la payent. Et je ne dis pas que Total ne paye pas d'impôts, je ne dis pas que Total est un groupe qui mérite d'être mis au banc de la société française. Je dis simplement que le chantage...
Vous avez hésité à quoi? À dire que c'était un profiteur de crise? C'était ça le mot que vous vouliez pas vraiment sortir?
Oh bah ça, je peux le dire. C'est un profiteur de crise, comme d'autres.
Un profiteur de guerre?
Bien sûr. Bien sûr, à l'insu de son plein gré. Je ne dis pas que c'est lui qui est à l'origine de cette guerre illégale. C'est en réalité Donald Trump. Mais évidemment, il y a aujourd'hui des gens qui en profitent et d'autres qui, au contraire, le subissent. Les Françaises et les Français, dans leur immense majorité, le subissent. Total en tire des bénéfices.
Mais justement, ces Français, moi j'en avais plusieurs ce matin qui ont appelé sur RMC, qui sont notamment des gros rouleurs. J'avais un routier qui était dans la région de Rouen et qui disait « Mais attendez, moi, je fais mon plein chez Total et j'ai pas du tout envie
qui remonte les prix. Et il dit, le problème, c'est que cette taxe, le temps qu'elle soit éventuellement rétribuée aux Français, il dit, au moins là, c'est efficace. Entre la taxe et le plafonnement des prix, je choisis le plafonnement des prix. Voilà ce que vous disent aussi une partie des Français.
Mais je les comprends. Mais moi, je ne donne pas un choix entre l'un et l'autre. Ce que je dis simplement au gouvernement, c'est qu'il ne peut pas céder au chantage. On ne peut pas avoir un chef d'entreprise qui désormais dit en fait au gouvernement ce qu'il doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ça n'est pas admissible. Dans une démocratie, le débat doit exister. Et il est logique qu'il y ait aujourd'hui eh bien, des mesures qui soient prises et qui permettent de redistribuer cet argent en direction des plus modestes. Ce que je vois, c'est que Total dit qu'il plafonne les prix, ce qui est vrai. Mais ce que je vois aussi, c'est que en dépit de ce plafonnement, il vient de faire 6 milliards de dollars de bénéfices supplémentaires. Il a augmenté son profit de 51%. Et on considère que ce serait tout à fait normal. Moi, je dis que ça n'est pas normal. Et ça n'est pas lié. Quel est le génie particulier de Patrick Pouyanné qui a conduit à ce qu'il y ait un surprofit? Il n'y a pas de génie particulier. Il y a simplement une crise dont il profite. Et donc, il n'est pas anormal que l'État dise à un moment à une entreprise française de dire, écoutez, nous avons aujourd'hui une vraie difficulté pour les Français.
Vous maintenez donc votre proposition de loi.
Oui, je la maintiens, bien sûr.
Et de l'autre côté, vous demandez à Total de maintenir son plafonnement des taxes. Plafonnement du prix à la pompe.
Bien sûr, le patriotisme, c'est ça. C'est d'accepter l'idée que quand on a, je ne crois pas que Total soit en difficulté. On a là, en fait, à quoi sert cet argent? Soit il sert à servir les Français, soit il sert les actionnaires, celles et ceux qui voient leurs dividendes augmenter chaque année. Eh bien, il n'est pas tout à fait normal qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, se servent de la crise pour pouvoir augmenter leurs bénéfices personnels et que pendant ce temps-là, tous les autres payent.
Voilà. 194 millions d'euros de rentrées dans les caisses en plus de ce qui était prévu, qui seront intégralement utilisés. Ça, c'est pour l'État. Intégralement utilisés.
Ce que j'avais demandé, je suis très heureux
donc
de voir
que vous êtes satisfait de cette transparence, de la manière dont c'est utilisé.
Bien sûr, je suis tout à fait satisfait du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un euro supplémentaire qui rentre du fait de la crise géopolitique dans les caisses de l'État. Et il était normal d'assurer une transparence totale et de redistribuer immédiatement cet argent qui est collecté en supplément de ce que l'État aurait dû percevoir dans une situation normale.
Donc on ne fait pas plus. On ne bloque pas les prix, on ne supprime pas les taxes.
Blocage des
prix, CLFI, suppression des taxes ou réduction des taxes, ça c'est plutôt le RN.
Mais on ne distribue pas plus d'argent qu'on en a. Pour une raison très simple, c'est que si vous dites par exemple, comme le propose le RN, qu'on fait baisser la TVA, très bien, ça coûte 12 milliards. Ces 12 milliards, vous les cherchez où après? Vous avez besoin de les trouver quelque part. Le RN n'a jamais donné la solution. Ça veut dire que ce sont les Français
eux-mêmes. Cette phrase, je voudrais l'encadrer, peut-être même l'enregistrer, en faire un gimmick. On ne distribue pas plus d'argent qu'on en a.
Bien sûr, c'est la raison pour laquelle... Et pour tout.
Ah bon. Mais on va peut-être falloir faire des petits changements quand même donc,
mais
dans
il
n'y
a pas un seul moment, Pauline de Malherbe, où vous m'avez entendu dire qu'on devait distribuer un argent qu'on n'avait pas. Quand on ne l'a pas, on le cherche quelque part. La raison pour laquelle je vous propose ce matin, à nouveau, de dire que sur ceux qui réalisent des super profits liés à une crise géopolitique, eh bien cet argent-là doit venir dans les caisses de l'État pour qu'il puisse être redistribué aux Françaises et aux Français.
Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon est donc candidat.
Oh, quelle surprise.
Oui, ça ne vous a pas surpris tellement? Mais ça n'a pas l'air même de vous ébranler, mouvoir.
Écoutez, il est candidat permanent depuis des décennies, donc je ne vois pas très bien ce qui a changé.
C'est un non-sujet, quoi.
Ben oui.
Enfin, il y a quand même un petit moment où la question va se poser de savoir qui est la gauche aujourd'hui. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous ensemble?
C'est les Français qui le décideront. Mais c'est son droit. Il est candidat. C'est la quatrième fois qu'il est candidat à une élection présidentielle. Moi, ce que je crois, c'est que Jean-Luc Mélenchon, à la fois, a des qualités évidentes. C'est un tribun. Il a un charisme que personne ne lui enlève. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il est un candidat de premier tour qui est parfaitement légitime. Mais il est le plus mauvais candidat pour la gauche au second tour. Il est celui qui permet à toutes les droites et l'extrême droite de se coaliser. Et donc, quand on observe simplement les enquêtes d'opinion, qui valent ce qu'elles valent à cette époque de l'année. Mais ce que l'on voit, c'est que il est celui qui vraisemblablement serait le plus sèchement battu par l'extrême droite, ce qui conduirait à ce qu'on ait une extrême droite qui soit à son niveau le plus élevé et qui lui donnerait quasiment une carte blanche pour la suite. Et moi, je ne veux pas donner de carte blanche à l'extrême droite et je veux même la battre à l'élection présidentielle prochaine.
Olivier Faure, ça veut dire que quand je vous interroge sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon, vous me dites le problème, c'est que de toute façon, il ne peut pas gagner. Donc, il n'y a pas de problème sur le fond.
S'il n'était pas candidat, vous auriez pu, s'il ne s'était pas annoncé dès le début, vous auriez pu peut-être faire alliance avec leurs idées, avec une partie des militants, des élus. Est-ce que vous auriez pu vous mettre ensemble s'il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, mais s'il y avait ses idées?
Non, enfin, ça dépend lesquelles. En fait, il y a des idées que je partage et des idées que je ne partage pas.
Alors, lesquelles vous partagez et lesquelles vous partagez pas?
Bah, ça va être long, mais...
Quand il dit, l'une des premières promesses, c'est la retraite à 60 ans, le SMIC augmenté, le blocage des prix. C'est les trois mais formules qui ont été utilisées.
Le SMIC augmenté, je le partage. Je pense qu'aujourd'hui, notamment tout ce que nous vivons et tous ces gens qui nous disent tout ce qu'on nous a évoqué dans vos journaux, dans les heures qui ont précédé, sur, la question de la malbouffe, sur la question, toutes ces questions-là, sont liés au pouvoir d'achat et sont liés au fait qu'aujourd'hui les Français vivent mal et ne vivent même pas et vivent même mal alors qu'ils sont salariés, qu'ils travaillent, et quand le travail ne paye pas, c'est un problème. Et donc effectivement, oui, il faut aujourd'hui augmenter le salaire minimum. Sur la question de la retraite, moi je suis pour le retour à 62 ans, mais je ne suis pas favorable au fait qu'on aille à 60 ans, pour des raisons qui sont liées au fait que d'abord la durée d'existence, de vie s'est allongée, et qu'il est difficile, là aussi, de promettre des lunes qu'on ne saura pas financer. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai demandé avec succès la suspension de la réforme Borne, et j'espère bien que lorsque nous serons arrivés au pouvoir en 2027, eh bien nous pourrons non seulement suspendre, mais même revenir complètement sur cette réforme, l'abroger et faire en sorte que nous puissions à établir une réforme qui soit une réforme de justice, qui permette de distinguer entre les carrières pénibles et celles qui ne le sont pas.
Vous avez dit hier soir, Olivier Faure, alors que vous étiez en meeting avec une partie de la gauche non-mélenchoniste, je dirais, on ne peut pas faire l'alliance au prix de l'abandon de nos valeurs républicaines, de notre rapport à l'Europe, notre capacité à gouverner sérieusement ce pays. Mais puisque vous évoquez la question de la bouffe, de la malbouffe, ou de la fast-food bouffe, ou de tout ça, il y a effectivement une bataille qui est en train de devenir très politique, qui est cette bataille notamment autour de Master Poulet. Et je repensais à ce qu'était la gauche il y a quelques années, pas si lointaine, la gauche José Bové, qui allait détruire des McDo. Aujourd'hui, vous avez Éric Coquerel, par exemple, qui lui va défendre Master Poulet, qui sont ces nouvelles enseignes avec des poulets très peu chers. Vous êtes quelle gauche? Vous êtes plutôt dans la logique d'un José Bové qui était en train de détruire les McDo, ou aujourd'hui vous défendriez Master Poulet, par exemple?
C'est très curieux que Éric Coquerel soit déjà désormais défenseur d'un capitalisme effréné, avec des gens qui utilisent justement le fait que il y a un problème de pouvoir d'achat pour déstocker de la malbouffe. Parce que la réalité, c'est que ces grandes enseignes, elles ne sont pas là pour offrir une nourriture de qualité, mais pour offrir en fait l'illusion de la quantité. Et donc, ce que nous
l'illusion de la satiété, c'est ce que disent certains spécialistes. Absolument. Ce sont des poulets 100% pas français, ça c'est sûr.
Oui, absolument. Ce sont des poulets qui sont enfin tout sauf bio, qui sont tout sauf fermiers. Et on a notamment un public qui est un public captif, qui sont les plus jeunes. Et je le vois bien, y compris mes propres enfants, qui sont attirés par ces enseignes. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons accompagner ces mouvements-là, ou est-ce qu'au contraire nous devons essayer de les réfréner et de dire qu'il y a un sujet?
Vous défendez
derrière.
Donc le combat de Karim Bouamrane, qui est le maire de Saint-Ouen, qui dit que c'est une manière en quelque sorte de donner de la malbouffe justement à ceux qui n'ont pas assez de pouvoir d'achat.
Il y a à Saint-Ouen Thierry Marx qui a monté une enseigne qui n'est pas justement une enseigne de malbouffe, qui doit s'appeler le Bouillon du Coq, et qui justement offre à des populations modestes la possibilité de manger et de manger bien. Et donc, ce que nous devrions défendre tous ensemble, c'est effectivement la possibilité pour toutes les familles, y compris les plus modestes, de manger correctement et de ne pas être victime de la malbouffe, parce qu'on sait aussi derrière ce que ça a comme conséquence en termes de santé alimentaire, en termes d'obésité, en termes de tout ce que nous combattons. Et donc, il faut offrir le meilleur à tout le monde.
Donc, c'est un vrai combat de valeurs, en fait, de rapport au commerce, au pouvoir d'achat. Vous disiez une population captive, en quelque sorte. Pour vous, il y a tout ça dans cette bataille-là?
Tout se mêle, effectivement, des questions de santé, des questions des questions de pouvoir d'achat, évidemment, et de rapports qu'on a aussi à la restauration, à la convivialité, etc. Donc il y a toute une série de sujets qui sont posés par cette
Olivier Faure, votre réponse, ou disons votre contre-candidature, ce sera qui, ce sera quoi? Parce que quand Jean-Luc Mélenchon dit « nous, c'est carré », on a un candidat, on a un programme, c'est vrai, parce que de l'autre côté, je ne sais plus compter le nombre de candidatures potentielles à gauche.
C'est vrai. Ça, c'est pour l'instant, effectivement, une situation que je déplore. Et je suis celui qui se bat depuis des semaines pour faire en sorte que, justement, on fasse rentrer un carré dans le rond et qu'on ait enfin la possibilité...
Ça marche rarement, de faire rentrer le carré dans le rond.
Ça dépend de la taille du rond.
Oui, mais pas vraiment que ce soit un tout petit carré.
Bah, un carré qui rentre dans le rond. En tout cas, ce que je cherche,
vous
c'est...
Vous pensez que vous y arriverez?
J'espère, je ne suis pas le seul à mettre.
Vous allez dire à François Hollande, écoute, prie-toi à la primaire. Vous allez dire à Raphaël Glucksmann, prie-toi à la primaire. Vous allez dire à François Ruffin, à Jérôme Guedj. En plus, vous, c'est l'enfer partie. Parce que vous pouvez même plus dire que vous êtes candidat parce que vous dites tellement il y en a déjà trop que vous êtes complètement bloqué, vous.
Mais je ne suis pas bloqué. Je dis simplement que il y a évidemment.
Non, mais vous n'allez pas me dire que vous êtes candidat.
Sujet. Non, je vais pas vous le dire.
Ouais. Mais parce que vous ne pouvez plus le dire. Il y en a déjà trop.
Mais je crois que ça n'empêche personne. Je vois même un candidat supplémentaire par jour.
Oui, c'est ça.
Dans le week-end, on a entendu, en fait, Bernard Cazeneuve se rajouter à la liste. Et puis, Elisabeth Borne qui se tâte côté droit. Bon, bref, en fait, quand on aura...
Vous trouvez ça risible? Enfin, je... Oui. Ouais. Là, les dernières déclarations de Bernard Cazeneuve qui laisse entendre qu'il est prêt, Elisabeth Borne qui se dit au fond pourquoi pas moi.
Je me prépare, je suis déjà prêt, je suis déjà volontaire, je suis candidat à une primaire. Bon, on n'en peut plus, ça suffit.
Donc vous leur dites quoi?
Il faut qu'à un moment, effectivement, on trouve tout simplement un moyen commun accepté par toutes et tous qui permette de sélectionner celui ou celle qui nous représentera.
Quand? Comment?
Moi, je me bats pour un candidat commun ou une candidate commune à l'élection présidentielle qui incarne cette gauche non mélenchoniste et qui permette d'aller chercher le second tour et de l'emporter au second dans le cadre d'un front républicain. Donc les choses sont assez claires et assez simples de mon point de vue. Maintenant, effectivement, il faut que les égos, les ambitions naturelles, légitimes, etc. se plient à cette logique. Parce que nous ne pourrons pas nous regarder dans un miroir si nous avons contribué même indirectement à l'élection de Jordan.
Vous dites la non mélenchoniste. Hier soir, le même Jean-Luc Mélenchon, qui effectivement y va de son côté, a quand même proposé, je cite, une campagne unitaire, notamment pour les sénatoriales.
Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours la même histoire. Il est capable de prêcher le vrai et le faux. Non, toujours le faux, mais en tout cas, surtout la capacité à chercher à embrouiller et chercher à organiser le chaos.
À organiser le chaos.
Oui. Et ce n'est pas, en fait, la réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon n'a aucune intention de faire quoi que ce soit avec qui que ce soit.
Il n'a pas vraiment envie d'une campagne unitaire, en fait, c'est ce que vous me dites.
Il n'a jamais cherché l'unité où que ce soit. Il a cherché à plier ceux qui avaient été ses partenaires dans le cadre de la NUPES ou du NFP. Il n'a jamais cherché à faire vivre ensemble des formations politiques différentes pour lesquelles il avait une légitimité à diriger. Mais cette légitimité, il l'a perdue parce qu'il n'a jamais fait autre chose que de chercher à imposer un point de vue à tous les autres.
On l'a appris ce matin, un bateau affrété par la compagnie française CMA-CGM, qui par ailleurs est propriétaire d'ailleurs de BFM TV et d'RMC, a été touché dans le détroit d'Ormuz. Est-ce que la France, à un moment ou à un autre, doit participer, s'engager d'une manière ou d'une autre dans le conflit? On a deux soldats qui ont été tués sous casque de la finule. Est-ce que la France doit continuer à rester spectatrice en quelque sorte?
Mais nous ne pouvons pas nous engager derrière Donald Trump et Benjamin Netanyahu. C'est inimaginable. Ce que nous devons au contraire poser, c'est une solution diplomatique, c'est faire en sorte que la paix revienne. Enfin, vous vous rendez compte que ce problème que l'on évoque ce matin, c'est six Philippins dans un bateau, donc c'est de CMA CGM qui ont été touchés, le sont
blessés,
pour quelle raison,
semble-t-il?
Pour quelle raison? Ils le sont parce qu'il y a eu une guerre totalement illégale, sans mandat, qui a été enclenchée par deux gouvernants d'extrême droite, que sont Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Et donc, nous devrions, nous, maintenant, les suivre parce qu'ils nous ont entraînés dans une guerre illégale.
Et est-ce qu'on peut ne rien faire?
Mais on peut, le moment venu, sécuriser le détroit d'Ormuz, mais il n'est pas question de mettre un doigt dans l'engrenage, de devenir des co-belligérants et d'être de ceux qui participons à un conflit que nous n'avons pas voulu, que nous n'avons pas souhaité et qui ne permet rien. Enfin, c'est quand même incroyable de voir à quel point ces gens improvisent des guerres et le font au détriment du monde entier. La crise que nous allons connaître, une crise qui va être une crise mondiale, une crise sociale, une crise économique, elle est liée à l'inconséquence de deux dirigeants qui n'en font qu'à leur tête et qui considèrent que désormais, c'est la loi du plus fort qui doit s'imposer face au droit international. Eh bien moi, ce que je défends, ça n'est pas la loi du plus fort, mais c'est la loi du plus juste. Et c'est très différent. Et ce que je crois, c'est que notre pays, qui est un grand pays, qui est un pays qui exprime aux yeux du monde entier une façon de procéder, qui exprime des valeurs particulières, etc., doit se comporter comme ce qu'il a toujours été et faire entendre la voix qui a toujours été la sienne, celle du droit.
Merci Olivier Faure d'avoir répondu à mes questions ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste et vous-même député socialiste de Seine-et-Marne. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, Face à Canteloup.
Tous les matins, Nicolas Canteloup avec son info revisitée. Ce matin, Olivier Faure était mon invité. Il est toujours avec nous. Rebonjour Olivier Faure.
Rebonjour.
Figurez-vous que François Hollande voulait réagir. Bonjour, monsieur l'ancien président.
Oui, bonjour. Pardon de vous reprendre ma l'herbe, mais je pense que j'ai fait une petite erreur. Dans votre lancement, vous m'avez présenté en disant François Hollande. Et c'est, il faut bien préciser, il fallait dire le président Hollande.
Ah, le président Hollande. Oui, oui, bonjour président.
C'est quand même pas compliqué, il faut être carré. Hein.
Ah oui.
En plus, j'ai la chance qu'il y a encore un peu rond, donc faites rentrer le rond dans le carré.
C'est ça.
Voilà. Bref, il faut dire président Hollande. Oui, j'aime rappeler que j'ai occupé les plus hautes fonctions, contrairement à d'autres autour de cette table.
Oui, oui, monsieur le président.
Ben oui, président, il n'y en a pas beaucoup des présidents, ça se compte sur les doigts d'un pouce. Hein, voilà, pour donner une image, en cette journée de football, il y a la Ligue des Champions avec Luis Enrique, et puis il y a le tout venant, la Ligue Amateur avec Habib Bey en Ligue Amateur. Chacun se reconnaîtra. Et j'ai écouté attentivement Olivier Faure, pour qui j'ai beaucoup de compassion.
De compassion.
Oui. Se faire enfariner, c'est toujours une épreuve. Et on se doute qui est derrière cet attentat pâtissier, puisque d'après les premiers éléments de l'enquête, on a retrouvé sur le corps de la victime de la farine francine insoumise.
Attention, monsieur Hollande, vous avez aussi reçu de la farine, justement. D'ailleurs, vous en avez encore un peu sur votre veste, là.
Où ça?
Non, c'est pas
de la farine, c'est du sucre glace.
Ah oui.
Oui, c'est à cause de la gaufre à l'heure. Oui. Oui. Ou
c'est venu avec des chouquettes.
Non, ou des chouquettes. Ah oui. C'était des chouquettes. Voilà. À moins que ce soit le pain au lait aussi.
Ah oui.
Quand même. Ce serait quand même pas le quidaman. Ah non, je sais, c'est pas c'est le beignet. C'est le beignet. Oui, bon, mais bref, c'est pas le sujet. Non. Je voulais répondre à Olivier Faure concernant la primaire à laquelle il ne tient pas. Il y a un argument qui est imparable contre la primaire.
Justement, monsieur Hollande, on n'a plus le temps là, ça suffit. Olivier Faure est toujours avec nous. Rebonjour Olivier Faure. Le gaz, le pétrole, est-ce qu'on va au devant d'une grosse crise énergétique?
Vous avez raison, Pénémère. Le gaz, le pétrole, mais aussi l'électricité, sont les jersey, sont les français. C'est pourquoi, avec toutes les forces gauches républicaines, je vais mettre toute mon énergie à sauver l'énergie.
Ah oui.
Autant sur l'énergie, nous sommes en pénurie. Autant candidats de gauche, on en a trop.
Oui.
Luc Mélenchon, Hollande, Bernard Cazeneuve, Guzman, Risvalo, Romgège, Soir Ruffin, Tinotin. Et encore, je ne cite pas les remplaçants, même si je sais que nous sommes sur une chaîne de sport. Bref, il y a une surproduction de candidats. À gauche, on ne sait plus où les stocker.
Oui, c'est un problème.
Je crains une chute des cours de la gauche et que les Français se dirigent vers une autre énergie beaucoup plus droitière, beaucoup plus polluante.
Bien sûr.
C'est la raison pour laquelle je propose de taxer les candidats de gauche.
Ah oui, c'est bien ça l'idée.
Comme pour Total.
Hein,
Très bien.
Pardon, excusez-moi, je suis un peu fatigué, je confonds un peu ce sujet.
Oui, c'est ça, là, vous m'avez fait un petit. Vous m'avez mis des ronds dans des carrés. Merci, monsieur Faure. Tout de suite, on retrouve Thibaut Texer pour les titres de l'actualité.
Et oui, c'est Thibaut Texer, le journaliste qui a une voix tellement profonde qu'elle est plus navigable que le détroit d'Ormuz. C'est parti pour les titres. Rêve parti. Débuté le premier rêve. La rêve parti près de Bourges s'est enfin terminée hier. Prochain gros événement à l'agenda des dealers. Festival de Cannes et le Tour de France. Procès libyen au dernier jour des débats de son procès, Nicolas Sarkozy a déclaré « Je veux retrouver mon honneur ». Ceci est une alerte enlèvement. L'honneur de Nicolas Sarkozy a disparu. La dernière fois qu'il a été aperçu, c'était le 6 mai 2007, place de la Concorde, au soir de la victoire de l'ancien président. Il était accompagné du chanteur Faudel qui s'est lui aussi volatilisé. Depuis, plus aucune nouvelle. Si vous disposez d'informations permettant de retrouver l'honneur de Nicolas Sarkozy, composez le numéro du tribunal le plus proche. Pour ce qui est de Faudel, ça ira. Merci.
Allez, merci Thibault. Les chiffres de Médiamétrie sont tombés. CNews a dégringolé à la troisième place des chaînes info en avril. Et pourtant, Christine Kelly est tout ce qu'il faut pour retenir les derniers téléspectateurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur CNews dans mon havre de paix, le spa Christine Kelly. La concurrence vous inonde d'informations anxiogènes sur le Moyen-Orient. Alors, pour lutter contre tous ces antioxydants qui vous agressent, essayez notre formule zen. Un bain de boue vivifiant dans lequel on traîne quotidiennement Bali Bagayoko. Bien sûr, avec respect, calme et volupté.
Bien sûr.
Découvrez également notre gamme de soins adaptés pour toutes les peaux à problème. Vous ne supportez plus le teint mat de Kabylie ou l'épiderme noir comme du charbon végétal? Laissez-vous séduire par les traitements que nous proposons à base de vitamines OQTF à l'extrait de remigration active. Alors je vous dis à bientôt. Je vous attends dans mon spa, Christine Kelly.
Merci beaucoup, Christine Kelly. Et nous sommes à présent avec. Ah, tiens, oui, vous êtes de retour, monsieur Hollande.
Ça m'est revenu.
Ah bon? Alors, l'argument imparable contre la primaire?
Non, le sucre glace sur la glace. En fait, c'était pas le beignet, c'était les choux roses.
Ah, c'est les choux roses. Merci, monsieur Hollande. Allez, pour finir, Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. Qu'est-ce qu'il y a au menu, Alain?
Eh oui, bonjour Apolline. Eh bien, menu, c'est exactement le mot adéquat, puisque vous avez vu le buzz que nous avons fait l'autre jour en piégeant le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, pour lui faire manger du master poulet, qu'il a d'ailleurs refusé de manger. Donc, on va surfer sur cette vague.
Ah oui, hein.
Aujourd'hui, dans les GG, nous recevrons Sandrine Rousseau, à qui nous allons offrir une belle assiette de foie gras. Bruno Retailleau, à qui nous avons préparé tagine, couscous et pâtisserie orientale. Nous proposerons également à l'imam Chalgoumi du rôti de porc et du saucisson de Lyon. Et enfin, nous terminerons avec Gérard Larcher, à qui nous proposerons une grande assiette de salsifis vapeur.
Oh non,
vous l'aurez compris. Aujourd'hui, dans les GG, ça ne sera pas les grandes gueules, mais le grand gueuleton.
Merci beaucoup, Nicolas, et merci à Olivier Faure d'être restez avec nous, le vrai Alain Marchal est là. Quel est le programme, Alain?
Eh bien, c'est Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle, qui sera dans les GG tout à l'heure. On parlera du petit chantage de Patrick Pouyanné. Si on me taxe, j'arrête le plafonnement. Sophie la girafe, qui est fabriquée en Chine. Et puis, on regardera aussi ce qui se passe du côté des enseignes fast-food. McDo, qui baisse les prix de certains de ses menus. Le carton aussi de Master Poulet. Finalement, est-ce que c'est vraiment bon pour le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est bon pour l'assiette, c'est autre chose, mais le pouvoir d'achat. Vous venez en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, d'autant plus que nous avons notre agriculteur Didier Giraud qui sera avec nous, ainsi que l'avocate Sandrine Pégan, tout comme la cadre de la fonction publique Zora Bitton. Le 32-16 est à votre disposition. Les grandes gueules, ça démarre dans 3 minutes en direct sur RMC, la radio, et RMC Story, la TN, le calme 23 de la TNT.